Le 110e anniversaire de l'Anzac Day, commémoré en Calédonie, une cérémonie du lever du jour était organisée ce matin à la caserne Gallipas-Bosque. Cela fait 2 mois que les bus du réseau Taneo ont repris du service, la fréquentation est en hausse et les coûts d'exploitation restent maîtrisés. Des stands variés, de nombreuses animations à la Maison des Artisans, le Salon des Seniors a ouvert ses portes ce matin pour 2 jours à Nouville. En métropole, un lycéen de 15 ans poignarde plusieurs de ses camarades, une jeune fille est morte et 3 autres personnes ont été blessées. À Rome, les obsèques du pape François seront célébrées demain. Des milliers de fidèles continuent de se recueillir devant sa dépouille. Et puis en sport, déception pour Clarisse Agbenenou. La judokate française rate son 6e titre de championne d'Europe battue en finale du tournoi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Avant de développer tous ces titres, le rendez-vous du vendredi, c'est à la fin de ce journal. C'est évidemment le magazine Transparence. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Votre invité sera aujourd'hui Eric Deschemaeker.
Eric Deschemaeker, professeur de droit à Melbourne, ce sera l'invité du magazine Transparence. C'est un universitaire qui, la semaine dernière, a donné une conférence sur le thème de la situation ainsi créée pour évoquer la sortie de l'accord de Nouméa. Nous l'interrogerons sur l'analyse assez original qu'il développe concernant la situation de la Nouvelle-Calédonie. Et puis nous lui demanderons aussi ce qu'il pense du projet d'accord politique proposé par Manuel Valls. On se retrouve donc d'ici une demi-heure en compagnie d'Eric Deschemaeker, juste après votre journal.
Et à 16h45, on vous retrouvera avec le Club Politique Radio Rythme Bleu.
Et au sommaire du Club Politique ce soir, une question: que faut-il attendre de la visite de Manuel Valls et de la convention du FLNKS? Nous reviendrons aussi sur les réunions publiques des loyalistes mercredi et de Calédonie Ensemble hier soir, et sur la prise de position de NCECO qui a publié un long communiqué concernant les discussions sur l'avenir institutionnel. Nous parlerons également de l'affaire du permis de conduire calédonien. Et enfin, dans un tout autre domaine, nous évoquerons bien sûr la mort du pape François. Voilà pour le menu de ce Club Politique qui débute cet après-midi à 16h45.
La présidente de la province sud, Sonia Baquet, était notre invitée du matin à 7h30 pour revenir sur les dispositifs adoptés hier par l'Assemblée de province pour favoriser la reprise économique. Il s'agit de Sud Pro, une plateforme de mise en relation d'entreprises qui vise à soutenir les patentés et les très petites entreprises. De Sud Jeune, qui est un dispositif provincial d'aide à l'embauche de jeunes calédoniens. Et enfin, dans un autre domaine, de Sud Santé, qui est ciblé sur le recrutement d'infirmiers. Par ces dispositifs, la province sud cherche à donner une impulsion à la reprise de l'activité économique près d'un an après le 13 mai, explique Sonia Baquès.
On a de fait un frémissement, c'est-à-dire que d'abord la chute économique s'est arrêtée. On a un début de redémarrage qui est lié d'une part à la reconstruction publique, d'autre part à des assurances qui ont mis longtemps à indemniser mais qui finissent par le faire. Donc on a un redémarrage d'activité qui est évidemment ralenti par le fait qu'il y a une absence de visibilité. Donc il y a finalement assez peu d'investissements sur le long terme. Mais il y a une reprise économique, et cette reprise économique, ce qu'on veut, c'est l'accélérer, la booster, donner un petit coup de pouce qui fait que ça va un peu plus vite que ce que ça aurait pu aller.
Sonia Baquès a aussi été interrogée sur l'actualité politique. Alors que le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, revient la semaine prochaine pour poursuivre les discussions sur l'avenir institutionnel, et le chef de file des loyalistes veut toujours y croire.
Nous, on veut toujours y croire. On est dans toutes les discussions, on participe à tout, on est à la fois constructif, créatif sur des recherches de solutions. On a malheureusement en face de nous des représentants du FLNKS qui n'avancent pas, qui ne négocient pas. Ils ne sont pas en phase de négociation. Je crois qu'ils ont la décision ce week-end. Donc, il n'y a pas d'avancée concrètement. Ils ne se positionnent pas. Une négociation, on a quelqu'un qui est d'un côté, l'autre de l'autre, et puis chacun fait des avancées vers l'autre. Là, on a des indépendantistes qui clairement ne bougent pas. Donc, j'espère que les choses évolueront. J'espère que quand Manuel Valls va arriver, les indépendantistes auront un mandat pour réellement négocier et pour rentrer dans cette recherche de solutions. J'ai pas le sentiment que ce soit le cas, donc encore une fois, je l'espère. Il y a eu un article du Monde cette nuit totalement faux, disant que nous ne cherchions pas d'accord. Bon, je crois que malheureusement, les journalistes partisans font du mal à la Calédonie.
Sonia Baquès fait allusion à un article du Monde intitulé « Le grand bond en arrière des non-indépendantistes radicaux » qui affirme que les loyalistes envisagent de ne pas signer l'accord proposé par l'État. Article signé par la correspondante locale du quotidien du soir. Après les loyalistes, mercredi, c'était au tour de Calédonie Ensemble de s'adresser à ses militants hier soir lors d'une rencontre citoyenne à l'UNC. Quelques 200 personnes ont assisté à cette réunion publique qui portait sur une question: un compromis sur l'avenir de notre pays est-il possible? Philippe Michel, Philippe Dunoyer et Philippe Gomez Gomes se sont succédé pour présenter le projet d'accord politique proposé par le ministre des Outre-mer. Les explications de Philippe Dunoyer.
On avait pour objectif de décrire à la fois le contexte, parce qu'il ne faut pas oublier dans quel contexte, notamment économique et social, on se trouve. C'est un paramètre important qui doit nous conduire, en tout cas, c'est mon avis, à trouver un accord. Ensuite, décrire un peu les principales lignes du document de travail ou du document qui s'appelle le compromis politique, pour que les personnes qui sont venues ce soir comprennent un peu plus précisément les points de convergence qu'on a pu trouver, notamment avec des positionnements qui sont les nôtres depuis un certain temps sur beaucoup de sujets. Les points de divergence aussi, parce qu'il y en a, ça aussi, c'était une sous-partie importante. Même si aujourd'hui, on n'a pas encore l'esquisse d'un accord, le prochain déplacement du ministre va être l'occasion, justement, je l'espère en tout cas, d'engager des négociations pour trancher ces points de désaccord.
Pour Calédonie Ensemble, le contexte et notamment la situation économique impose que l'on trouve un accord. Le parti espère que le prochain séjour de Manuel Valls sera constructif et Philippe Dunoyer reconnaît avoir envie d'un accord.
Un accord, ça dépend essentiellement de deux facteurs. D'abord, une volonté et ensuite une capacité à négocier. Donc moi, ce que j'espère, c'est que cette volonté, elle soit unanime et que le mandat de négociation soit attribué à toutes les délégations, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Sans surprise, vous savez que pour l'UCFLNKS, cette étape n'est pas encore franchie. Il faut vraiment qu'on puisse rentrer dans ces étapes-là. Ça ne veut pas dire qu'on va se précipiter, mais les sujets sont connus, les positions des uns et des autres sont connues, et le ministre vient quand même une dizaine de jours pour nous permettre de tracer les grandes lignes de cet accord. Il pourra peut-être encore y avoir une étape, mais je n'envisage pas que ce séjour se conclue par aucune négociation. Donc ce que j'espère, c'est que nous serons tous autour de la table le plus longtemps, aussi longtemps que nécessaire, pour négocier et poser les bases de l'accord.
Mais chaque intervention des élus du mouvement était suivie par des questions du public. Elles ont notamment porté sur le droit de vote, le droit à l'autodétermination ou encore les positions des différentes délégations. Toujours au chapitre politique, je vous rappelle que le FLNKS était réuni en en convention demain. Elle aura lieu à la tribu de Waou Ayaté. L'UPM, de son côté, réunit un comité central à la tribu de Unjo à Vaud.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 11h37, la suite d'Infomag, on retrouve Jean-François Baudin.
Dans l'actualité, en bref, la conférence sociale et fiscale s'est refermée ce matin à l'initiative du gouvernement et plus particulièrement de Christopher Gigès en charge de l'économie. Elle réunit depuis mardi les partenaires sociaux. Son but est dégager des pistes pour une réforme sociale et fiscale en profondeur qui réponde aux enjeux de relance et de développement de l'économie. L'emploi a été au cœur des débats mardi, la compétitivité et le pouvoir d'achat mercredi. Hier, les participants ont planché sur la réforme fiscale. Ce matin, les participants ont dressé une synthèse de leurs travaux à huis clos. Commémoration ce matin de l'Anzac Day. Les consulats généraux d'Australie et de Nouvelle-Zélande organisaient une cérémonie dite du lever du jour dans l'enceinte de la caserne Gallipas-Bosque pour célébrer le 110e anniversaire du débarquement du corps expéditionnaire Anzac à Gallipoli en Turquie. C'était le 25 avril 2015 au cœur de la Première Guerre mondiale, Lionel Sabot.
Dans la bataille des Dardanelles, le premier fait d'armes majeur des forces australiennes et néo-zélandaises. Il est profondément ancré dans l'identité nationale des deux pays voisins de la Nouvelle-Calédonie. Ce matin, dans sa prise de parole, Annelise Young, la consul générale d'Australie en Nouvelle-Calédonie, a rendu hommage à ses soldats du bout du monde tombés au champ d'honneur.
Aujourd'hui, on commémore l'Anzac, qui était le jour où les forces armées australiennes et néo-zélandaises sont arrivées sur la plage à Gallipoli en Turquie pour ce qui allait devenir la plus grande défaite militaire qu'on a jamais eue, mais qui est en même temps devenue un mythe fondateur de nos deux nations et de notre corps de l'armée conjointe. Et en même temps, on rend hommage à tous nos soldats qui se sont battus pour nous, pour notre vie aujourd'hui, dans toutes les guerres et les batailles autour du monde.
Lors de la cérémonie de ce matin, la nouvelle consule générale de Nouvelle-Zélande, Mary Thurston, a également rendu hommage aux hommes du corps expéditionnaire Anzac et insisté sur la notion de devoir de mémoire.
C'est le jour qui marque les commémorations pour les soldats qui sont tombés dans la Première Guerre mondiale. C'est ça l'origine de la date, parce que c'est une bataille en Turquie. C'était un désastre pour nous, mais ça a vraiment marqué le début de notre personnalité internationale et l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais maintenant, le jour est commémoré en tant que cérémonie pour tous ceux qui sont morts dans les combats et puis pour les soldats qui continuent à faire ce travail. Et on voit ici, à Nouméa, il y a beaucoup de soldats qui sont ici pour l'exercice de la Croix du Sud.
Et lors de cette terrible bataille, 3500 soldats néo-zélandais et 7600 australiens ont trouvé la mort. Présent pour participer justement à l'exercice Croix du Sud qui se déroule depuis lundi, le capitaine Mark Seroy de la marine australienne tenait à honorer la mémoire de ces soldats des Antipodes qui ont donné leur vie il y a 110 ans.
Chaque année, le 25 d'avril, nous nous souvenons du courage et le sacrifice des Australiens qui ont débarqué à l'aube sur la côte d'Anzac. Nous honorons la mémoire de plus de 103 000 Australiens qui ont donné leur vie au service de notre nation dans les conflits, les opérations de maintien de la paix, les opérations humanitaires, ainsi que ceux qui sont blessés au cours de leur service. C'est très important pour moi. C'est important parce qu'on est avec d'autres pays qu'on est allé à la guerre où on a fait des opérations avec, puis c'est pour ça qu'on est ici ensemble, pour opérationner ensemble pour la paix dans la région.
Présent également lors de cette cérémonie dite du lever du jour, le général de division Yann Latil, commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie.
Pour moi, être présent aujourd'hui à l'organisation de cette cérémonie, c'est un vrai honneur et je le fais avec beaucoup de sympathie pour nos camarades australiens et néo-zélandais. On célèbre la création d'une entité qui est le corps australio-néo-zélandais qui s'est solidifié au cours de la Première Guerre mondiale, mais c'est aussi d'une certaine manière la création de l'esprit de ces deux nations. Donc la symbolique est assez forte. Et on le fait ici en Nouvelle-Calédonie au cours d'un exercice qui implique aussi ces nations. Un exercice qui concerne tout le Pacifique, l'exercice Croix du Sud.
Et c'est Stanislas Alfonsi, le secrétaire général du Haut-Commissariat, qui représentait l'État pour cette cérémonie de l'Anzac Day.
C'est une des traditions qu'il faut faire vivre. C'est une occasion de nous rassembler. C'est un moment de mémoire, un moment de souvenir qui permet finalement au fil du temps, dans le cadre d'une chaîne de mémoire, de transmettre le souvenir de nos anciens et de le vivre, de le revivre nous-mêmes et puis de le transmettre aux jeunes générations. Vous avez vu qu'il y avait notamment des scolaires qui participaient à la cérémonie, qui, c'était très émouvant. C'est un moment de rassemblement qui célèbre le moment où la France, notamment la Nouvelle-Zélande, l'Australie ont été unis parce que la nécessité l'imposait. Donc pour nous, c'est toujours une cérémonie à la fois très émouvante et un rituel auquel nous nous prêtons très très volontiers.
La jeunesse était donc également présente ce matin. Des élèves de l'école Frédéric-Surlot, du collège Baudoux et du collège de Dimbéa-sur-Mer ont assisté à la cérémonie et ce sont des lycéennes de la classe défense de la section internationale du lycée La Pérouse qui ont lu un poème.
C'est un honneur, après être venue aux cérémonies d'Anzac Day depuis très longtemps, je participe et c'est émouvant de lire un poème aussi touchant. Le poppy, c'est le symbole d'Anzac Day, car c'est la fleur qui est poussée sur le champ de Gallipoli en Turquie après à l'arrivée des troupes australiennes, justement le 25 avril.
Ce matin, on a procédé à une lecture de In the Flanders Field de John McRae. Et c'est un poème qui est lu à chaque représentation de l'Anzac Day, car il représente tous ces morts qu'il y a eu lors de la Première et Seconde Guerre mondiale. Pour moi, ça représente beaucoup parce que j'ai ce sentiment de redevance envers ces soldats qui sont morts pour nous laisser vivre et puis pour nous laisser en paix notre pays. Et je pense qu'on leur doit beaucoup et c'est pour ça que ça me tient à cœur d'être là aujourd'hui.
Alors déjà c'est un grand honneur d'avoir pu lire aussi un poème qui veut dire beaucoup sur l'histoire de nos pays, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, In Flanders Fields. Je suis tout simplement très émue d'être ici aujourd'hui.
Et cette cérémonie du lever du jour s'est donc déroulée en présence des autorités civiles et militaires présents sur le rang protocolaire ce matin. Le président du gouvernement Alcide Ponga, la présidente du Congrès Velma Falayo, le député Nicolas Metzdorf, le sénateur Georges Naturel, le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, mais aussi le général de division Nicolas Mathéos, commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie.
Et l'Anzac Day a été commémoré aussi dans de nombreux états de la région, particulièrement évidemment en Australie et en Nouvelle-Zélande. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Ces dons de service ou cérémonies du point du jour ont lieu juste avant l'aube afin de coïncider avec l'heure du débarquement des troupes du corps expéditionnaire Anzac à Gallipoli. Tant en Australie qu'en Nouvelle-Zélande et dans de nombreux états insulaires du Pacifique Sud, des centaines de milliers de personnes se sont donc rassemblées à l'aube pour honorer la mémoire de leurs morts, non seulement de la Grande Guerre, mais aussi des conflits armés qui ont eu lieu depuis. En Nouvelle-Zélande, ces commémorations ont surtout eu pour cadre les mémoriaux militaires d'Auckland et de Wellington. Le premier ministre kiwi, Chris Luxon, assistera quant à lui à un service religieux à Gallipoli. Son homologue australien, Anthony Albanese, s'est pour sa part rendu aux cérémonies de l'Anzac Day qui ont eu pour cadre le mémorial militaire de Canberra. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et avant de marquer une première pause dans ce journal, un mot de l'actualité judiciaire avec la condamnation à 6 mois de prison d'un homme de 36 ans qui avait participé au lendemain des émeutes insurrectionnelles du mois de mai à un rassemblement devant la propriété Metzdorf à Poya. L'homme qui comparaissait devant la justice avait menacé le père du député de la première circonscription alors que ce dernier regagnait sa propriété. Il a été condamné et devra donc effectuer sa peine de 6 mois de prison sous bracelet électronique.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS avec notre question du jour. L'unité médico-judiciaire de proximité qui vient d'être inaugurée au Medipôle est-elle selon vous un outil efficace pour lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à la question d'hier, 54% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS estiment que ce n'est pas le bon moment pour lancer une polémique sur le permis de conduire calédonien. Ils sont 46% à penser à l'inverse que c'est le bon moment. 11h46, une pause avant de voir dans un instant le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Profitez d'une offre exceptionnelle chez Jardiland Nouméa. Du 16 avril au 4 mai, ce sont 2 sacs de terreau 50 litres bio achetés, égal un offert. Un terreau 100% naturel, riche en nutriments, idéal pour donner à vos fleurs, légumes et arbustes une croissance éclatante. Avec Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici.
Jardiland. Cultivez votre bien-être.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Les élus du conseil municipal de Dumbéa, réunis hier soir, ont acté la relance de l'appel d'offres concernant la reconstruction de l'école Jacques Minguet, détruite au cours des émeutes l'an dernier. La rentrée était initialement prévue cette année, mais elle a pris du retard, comme l'explique le maire de la ville, Johan Lecourieux.
Bon, on l'avait tellement anticipé dans la reconstruction parce qu'on voulait ouvrir en 2025, mais il fallait attendre les recettes de l'État et comme celles-ci sont révélées, un léger décalage et on est obligé de relancer l'appel d'offres parce que le précédent était caduque. Donc c'est pas très grave, là on relance l'appel d'offres et on sait que l'école Jacques Minguet sera prête pour la rentrée 2026 et on espère aussi que l'école de Grélan sera aussi prête en 2026 avec l'aide totale de l'État qui nous aide dans le cadre de cette reconstruction. Je suis convaincu que l'État fera le nécessaire pour que les arrêtés arrivent dans les délais attendus.
Et au total, la municipalité prévoit 47 millions de travaux pour la reconstruction de l'école Jacques Minguet et près de 200 millions pour l'école Louise de Grélan. Toujours à propos de l'enseignement, 2 délibérations ont également été adoptées hier soir pour accorder des subventions annuelles pour le fonctionnement des écoles publiques de la commune, ainsi que les associations de parents d'élèves. La municipalité a décidé de maintenir ces subventions à l'identique par rapport à l'an dernier. De son côté, l'opposition a interrogé le maire sur la politique mise en place pour la jeunesse. Question posée par Xavier Rossard, élu du groupe de Béa Intègre.
On observe que depuis de nombreuses années, en fait, beaucoup de budgets ont été supprimés. La gratuité des camps de vacances, le service de la jeunesse a été supprimé, de la prévention de la délinquance. La maison de la jeunesse a été transformée en une maison des associations. Et donc, j'ai interpellé le maire pour savoir quel était son avis sur la politique jeunesse. Sa réponse, elle est simple, hein, moins 22% de budget. Mais moi, je considère que dans un budget, on peut mettre des priorités et on peut faire des choix. Et il aurait fallu que le maire ait une ambition pour ces jeunes.
Et ce matin, 2 vidéos réalisées par les jeunes du conseil municipal ont été projetées en ouverture de cette séance, l'une sur l'environnement et le développement durable, l'autre sur le vivre ensemble. Et puis notez que ce matin, ce sont les élus de l'Assemblée de la province Nord qui se sont retrouvés en séance publique à Conné pour examiner 34 délibérations, essentiellement des attributions de subventions, des participations financières ou encore des dotations de fonctionnement pour plusieurs établissements scolaires. 2 mois après la reprise du réseau Tanéo dans l'agglomération, le syndicat mixte des transports urbains a dressé un bilan et les résultats sont assez encourageants. Les fréquentations et les recettes sont en hausse constante, Charlotte Coulson.
Oui, c'était le 10 février 2025 que les bus ont repris leur tournée dans les communes du Grand Nouméa. Un soulagement pour de nombreuses personnes après un peu moins de 9 mois d'inactivité avec une baisse considérable des financements publics et un budget annuel de fonctionnement divisé par 4. Le SMTU avait dû réadapter son offre. Les coûts de fonctionnement ont été réduits, les lignes et les tarifs adaptés au manque à gagner. Actuellement, 8 lignes desservent l'ensemble de l'agglomération seulement aux heures de pointe, le matin et le soir. Un réaménagement auquel les usagers s'adaptent peu à peu. Comme l'explique Hugues Georgelin, le directeur général adjoint du SMTU, la fréquentation augmente de manière progressive.
dit d'un terme scolaire, on disait que c'est, on pourrait avoir les encouragements, pour dire ça comme ça, puisqu'on tend vers nos objectifs de 2025, même si on les atteint pas encore, puisque ça ne fait qu'un mois et demi qu'on a démarré. Nos objectifs de fréquentation moyenne, alors quand je dis moyenne, faut vraiment prendre tous les jours concernés, donc du lundi au samedi, le samedi étant avec une fréquentation beaucoup moins importante, donc ça fait forcément baisser la moyenne. On est sur une fréquentation moyenne d'un tout petit peu plus de 4000 personnes jour, là où nous avons un objectif à 5000. Vous voyez, donc on n'est plus très très loin, donc c'est plutôt encourageant. Derrière, on est parti donc d'un redémarrage au 10 février avec à peu près 1000 validations jour. Voilà, on arrive à 4000 au bout d'un mois et demi. On espère que la tendance se poursuivra au cours de l'année.
Et qui dit fréquentation en hausse, dit aussi recettes en hausse. Le mois de mars a totalisé environ 35 millions de francs. C'est en dessous de l'objectif fixé à 40 millions, mais tout de même satisfaisant, car le SMTU a bien besoin de ses recettes pour penser à l'évolution du réseau. Pour l'instant, il est viable, mais les financements manquent pour augmenter le nombre de lignes ou même diminuer les tarifs.
Pour le moment, le réseau est viable d'un point de vue budgétaire et globalement entre les recettes, les différentes contributions, les taxes affectées et bien sûr les dépenses afférentes. Là-dessus, oui, je confirme que le budget est équilibré. C'est sûr que la question notamment de la tarification ou de la découpe est une question importante. Aujourd'hui, pour l'instant, il y a toujours le tarif unique à 500 francs, quel que soit le trajet effectué. Toute évolution, malheureusement, engendre forcément des coûts et des financements d'une manière ou d'une autre. Donc oui, on a plein de nouvelles dessertes, de nouvelles lignes, de dessertes de quartier ou d'amélioration des amplitudes horaires qui sont dans nos cartons, mais qui pour le moment ne permettent pas d'être mises en œuvre faute de financement. La seule variable qui nous permettrait de pouvoir envisager de nouvelles dessertes et d'améliorer l'offre, c'est uniquement la recette commerciale aujourd'hui.
Et le SMTU dresse également dans son bilan un état des lieux de la sécurité sur l'ensemble du réseau. Depuis la remise en service des bus, seuls deux incidents ont été répertoriés. Il s'agissait de caillassage. La sécurité a notamment été améliorée grâce à la suppression des points de vente à bord des bus et la disparition du roulage en soirée.
Le Salon des Seniors accueille le public depuis ce matin à la Maison des Artisans à Nouville. Pour cette 4e édition, les visiteurs pourront retrouver des stands et dans des domaines très variés, Nicolas Legrand.
Oui, du bien vieillir au loisir en passant par les finances. Par exemple, il y a aussi des animations qui sont proposées avec des danses, des concerts, des ateliers d'écriture ou encore des conférences. Tout est fait pour accompagner les plus de 60 ans des anciens mis à l'honneur lors de l'inauguration par Thierry Santa, le membre du gouvernement en charge des questions liées au handicap et à la dépendance.
Je considère qu'ils ont un rôle et une place particulière dans notre société et notre responsabilité à nous, c'est de faire en sorte justement qu'ils aient la vie la plus agréable possible après leur vie d'activité, on va dire. Et surtout pour avoir une fin de vie, encore une fois, la plus agréable possible. Le gouvernement les accompagne, nous avons plusieurs projets en cours, dont le projet de la Maison calédonienne de l'autonomie, qui sera un outil à leur service de simplification, puisqu'il s'agit d'un guichet unique avec une présence territoriale au bénéfice de tous nos aînés, quel que soit leur lieu de résidence en Nouvelle-Calédonie.
Bruno Aurelio est l'organisateur de ce salon et il se réjouit qu'il ait su trouver son public.
On est très heureux, c'est vrai qu'il y avait une grande demande, c'est vrai que la population est vieillissante en Nouvelle-Calédonie et d'autant plus sur le Grand Nouméa. Donc on avait beaucoup de demandes pour organiser un salon autour des seniors pour répondre à une problématique tout d'abord de santé, de service. Donc c'est pour ça qu'on retrouve sur le salon énormément de stands autour du matériel médical, trouver des solutions pour les personnes qui souhaitent rester à leur domicile avec du service à domicile ou bien des établissements de santé adaptés, mais également trouver des activités pour les seniors parce que les seniors ont du temps, notamment en semaine. Et donc, on a ici tout un tas d'activités sportives, ludiques, récréatives, parfois même musicales sur le salon. Et enfin, on va parler de la retraite. Vous savez, c'est un des points importants. Donc, on a la chance d'avoir avec nous la CAFAT qui va expliquer comment constituer son dossier retraite. On a des associations comme la SNR qui sont là pour aider les gens à anticiper tout simplement leur futur.
Une diversité qui intéresse les visiteurs présents sur le salon.
Les petites sorties, les activités qu'il peut y avoir pour les seniors, quoi. De l'occupation, oui. On reste à la maison tout seul, on va essayer de rencontrer des gens et des occupations, quoi.
Et là, vous avez vu des choses qui vous intéressaient ?
Oui, j'ai eu des petits balades dans le Nord, ça se passe très bien.
Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui touche à la santé. C'est important, surtout à mon âge. On commence à avoir des rhumatismes, j'ai vu qu'il y avait des produits pour les douleurs articulaires. Là, je vais prendre du charbon à mettre dans une bouteille d'eau. Il paraît que ça purifie l'eau, ça a l'air très intéressant.
Je suis surtout venue pour faire la démarche pour les directives anticipées. Préparer son départ si jamais on est dans l'impossibilité de s'exprimer, si on souffre trop, voilà. J'ai adhéré et je remplis mon papier parce que je ne veux pas qu'on s'acharne et c'est bien de le dire avant.
Le Salon des Seniors accueille le public aujourd'hui et demain à la Maison des Artisans à Nouville de 8h à 17h.
Une nouvelle pause avant de voir dans un instant l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB 11h 13h Infomag Jean-François Bodin.
Le plaisir n'a pas d'âge. Rendez-vous les 25 et 26 avril à la Maison des Artisans pour la 4e édition du Salon des Seniors. Que vous soyez un senior actif cherchant de nouvelles activités ou un proche souhaitant découvrir les services d'aide et de santé pour soutenir nos aînés, le Salon des Seniors est conçu pour vous. De nombreuses animations seront au programme avec des parcours de santé, des ateliers ludiques et des thés dansants, mais également des sujets au cœur de l'actualité. Épargne retraite, santé, soins à domicile, c'est également l'occasion de découvrir sur place la carte senior et bénéficier d'offres préférentielles dans plus de 200 enseignes partenaires. Un événement Pacific Fair en partenariat avec la carte senior, EasyLock, Toyota et RRB.
5 francs de remise sur le carburant grâce à votre carte senior et vos points fidélité x3.
Avec vos stations Shell et Pacific, bénéficiez d'une remise sur le carburant de 5 francs par litre tous les jours grâce à votre carte senior. Et encore mieux, avec votre carte fidélité Shell et Pacific, faites x3 sur vos points en plus de la remise. Les stations Shell et Pacific, toujours à vos côtés pour économiser.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole et dans le monde, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
D'abord l'actualité en métropole avec ce drame dans un lycée privé de Nantes. Un jeune garçon de seconde a poignardé plusieurs de ses camarades. Il a tué une lycéenne de 16 ans et blessé 3 autres élèves, dont un étant d'un état grave. Le drame s'est déroulé devant les autres élèves.
Les gens criaient « courez, 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 vous devez y aller » et on a senti que quelque chose n'allait pas bien, mais on savait pas quoi faire.
J'ai une amie qui a vu en fait ce qui s'est passé et qui était là quand la personne s'est fait poignarder. La personne s'est introduite dans sa classe, il a poignardé la deuxième personne la plus proche, parce que la première elle a fui, et la deuxième il l'a poignardé apparemment plusieurs fois. Tout le monde était au fond de la classe, ils avaient tous hyper peur. Il y a un monsieur de l'informatique qui l'a arrêté au bout d'un moment du coup. Il a mis des coups de couteau à un de ses amis en fait. Il y en a un, il lui a mis 10 coups de couteau alors que c'était un de ses amis.
Maîtrisé par un membre de la cellule informatique du lycée, l'agresseur âgé de 15 ans a été remis aux forces de l'ordre qui cherchent à en savoir plus sur son profil et ses motivations alors qu'apparemment le jeune homme souffre de troubles psychiatriques. Jean-Baptiste Marty.
C'est un jeune lycéen né en 2009. Il est également scolarisé dans cet établissement, lui en classe de seconde. Et selon les premiers témoignages de camarades qui le connaissent, il est décrit comme plutôt discret mais parfois instable. Certains évoquent même une tendance suicidaire, un profil psychiatrique qui interroge donc surtout que selon les informations d'Europe 1, l'adolescent a envoyé un mail avant son passage à l'acte dans son lycée. Un message dans lequel il partage un document intitulé « L'action immunitaire », une sorte de manifeste qui appelle à la révolte avec une critique de la mondialisation et des termes forts comme le mot « écocide ». Il y dénonce notamment la destruction de la nature et il va même jusqu'à évoquer la perte des savoirs écologiques. Un profil ainsi difficile pour le moment à cerner. Preuve en est, la conférence de presse du procureur de Nantes, initialement prévue ce soir à 19h, a été annulée sans nouvelle date pour le moment. L'enquête se poursuit pour connaître les motivations exactes du jeune lycéen.
Et le jeune homme a été interné en hôpital psychiatrique. L'actualité en métropole, c'est aussi ce coup de filet dans le milieu marseillais du narcotrafic. 21 personnes, considérées comme les chefs d'un vaste réseau, ont été interpellées dans le quartier sensible de la Castellane. Prenons maintenant la direction de Rome. Les obsèques du pape François seront célébrées demain samedi à 10h, heure de Rome, c'est-à-dire 19h, heure de Nouméa. Sa dépouille est exposée depuis hier dans la basilique Saint-Pierre qui ne désemplit pas de fidèles venus rendre un dernier hommage au pape défunt, Antoine Bienvaux.
Ils sont encore des milliers à patienter et à défiler devant le cercueil du Saint-Père ce soir. Depuis très tôt ce matin, c'est une foule massive qui s'agglutine sans discontinuer sur les pavés du Vatican. Alors forcément, pour accéder à la basilique, tous ont dû encore aujourd'hui prendre leur mal en patience, comme Hernan, d'origine colombienne.
J'ai attendu à peu près 3-4 heures pour le voir, mais ce n'est rien par rapport à ce que cela représente. Nous avons ressenti beaucoup de choses pendant le court moment où nous l'avons vu. C'est inoubliable, cela n'arrive qu'une seule fois dans une vie.
Un moment émouvant et inattendu aussi pour Jules et sa mère Aurélie, touristes français, qui ont été surpris par l'apparence du pape François.
Ça faisait bizarre, je ne l'ai pas reconnu, on n'aurait pas dit que c'était lui.
Effectivement, on ne le reconnaît pas, mais c'est pas quelque chose de triste. On voit que des gens ont un peu pleuré, mais c'est pas du chagrin. C'est en pèlerinage, je pense que des gens le vivent ensemble, mais on s'en souviendra.
On l'avait pas prévu, mais oui, on s'en souviendra longtemps.
Un moment inoubliable, historique, que beaucoup de fidèles s'apprêtent encore à vivre ce soir dans cette basilique Saint-Pierre, qui une fois encore restera ouverte jusque très tard dans la nuit.
Et je vous rappelle qu'une messe à la mémoire du pape François sera célébrée ce soir à 18h à la cathédrale de Nouméa. Elle sera présidée par l'archevêque de Nouméa, Mgr Sioné Poé. Midi, une dernière pause, quelques mots de sport et vous retrouverez ensuite le magazine Transparence.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Besoin d'un nouveau véhicule? Alors rendez-vous au Village Automobile à Nouméa PK4.
Eh oui, le Village Automobile, c'est le seul endroit qui regroupe 11 grandes marques de véhicules neufs.
Et jusqu'au 10 mai, profitez de nos prix les plus bas et venez essayer votre nouveau véhicule parmi nos marques. Chevrolet, Citroën, DS Automobile,
Great Wall Motors, Haval, Isuzu, Mercedes,
Opel, Peugeot, Power et Subaru.
Le Village Automobile, un seul endroit et des offres de folie. Le Village Automobile est ouvert en continu du lundi au vendredi et le samedi jusqu'à 11h30. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Samedi 26 avril, de 8h à 13h, foncez au complexe Le 4. Vente flash sur les croquettes pour chiens et chats. Un pack acheté égale un offert. Vos animaux se régalent et la bande à nounous reçoit 10% des ventes. En plus, tentez votre chance pour gagner un an de croquettes, chiens ou chats. Offre valable uniquement le 26 avril. Plus d'infos sur Facebook, Le 4. Le 4, 186, rue Jacques-Cacaoué. Faites vos courses autrement.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Alors, on va commencer par le judo. Lionel Sabot, le gratin européen est à Podgorica, au Monténégro, pour les championnats d'Europe.
Oui, et après avoir récolté 4 médailles, 2 en or et 2 en bronze, c'était hier pour la première journée de compétition, la délégation tricolore a continué sa moisson de médailles, avec toutefois une énorme déception chez les dames. Clarisse Agbenienou, qui visait un 6e titre continental, a dû se contenter d'une médaille d'argent après avoir été, c'est rare en judo, hein, disqualifiée en finale. Alors qu'elle avait pris le dessus sur son adversaire, Agbenienou a été sanctionnée pour avoir saisi au cou son adversaire, un mouvement jugé dangereux, et donc une seule médaille d'argent chez les messieurs. Johan Benjamin Gaba, révélation des derniers Jeux Olympiques à Paris, a remporté la médaille de bronze en moins de 73 kilos. Notez que le Calédonien Alexis Mathieu, chez les moins de 90, entrera en compétition ce soir à 19h30.
Et vous avez un peu de tennis dans votre musette avec la fin cette nuit du premier tour du Masters 1000 de Madrid. Deux Français étaient sur les courts.
Alexandre Muller a profité de l'abandon du Belge Goffin pour se qualifier pour le deuxième tour. Il y avait un set partout et Muller menait 1-0 dans la troisième manche lorsque Goffin a jeté l'éponge. Quant à Alice, lui rencontrait l'Italien Darderi. Le Français s'est incliné en 2-7. Score final 6-4, 6-4. Ce soir, place au deuxième tour avec 7 Français au total et notamment l'entrée en lice d'Arthur Fils et d'Hugo Humbert, tête de série dans ce tournoi. Ils étaient exempts pour le premier tour.